seul endroit où vous pourriez vous retrouver. Soyez le bienvenu. Alors ce soir, nous avons encore un message de la part de ce Jésus qui aime le monde, qui aime l'humanité, qui aime l'Église, qui aime chacun de vous et qui veut vous amener à la réflexion. Ce que Jésus aimerait dire ce soir, on a dit, voilà le thème qui nous a été donné aux prostituées sans TVA. Qu'est-ce que c'est que la TVA ? Pour tous les comptables, il y a des casse-têtes souvent en fin de mois ou avant un bilan pour vérifier si on a prévu les TVA. Parfois, on fait des devis, parfois, on fait des bilans et on oublie de noter les TVA. Et l'État n'est jamais content de cela. La valeur ajoutée à une personne, si on peut parler de personne, mais la personne n'a pas de valeur monétaire. Mais est-ce qu'il y a une valeur ajoutée ? Est-ce qu'on peut avoir aussi une dévalorisation, une sorte de détaxe sur certaines marchandises ? Et quand on parle de prostitution, c'est parce qu'on parle aussi de marchandisation, de commercialisation. La Bible nous dit que Dieu avait un projet important pour l'homme, précis. Et si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir tout de suite avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est un petit livre poétique, mais qui contient beaucoup de belles leçons qui sont d'ordre théologique aussi. Ecclésiaste, pardon, chapitre 7, verset 29. Où le poète, le sage, dit quelque chose d'important. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alors, il y a des gens qui aiment aller en ligne droite. Ils sont pressés. Ils n'aiment pas les raccourcis. Quand on roule sur des grandes autoroutes en Europe, on aime avoir l'autoroute libre. Quand il y a des accidents ou des déviations et qu'on nous propose un itinéraire bis, on fait un peu la grimace parce qu'on n'aura pas la même aisance pour rouler rapidement. Je n'ai pas dit rouler avec un excès de vitesse, hein, je dis juste rouler rapidement, c'est-à-dire de manière fluide, en ligne droite, parce qu'il y a aussi un plaisir à conduire. Dieu a créé des hommes droits, des hommes de droit, des hommes de droiture, mais ils ont cherché beaucoup de détours, parce que l'homme a souvent cherché à détourner le cours même du projet que Dieu avait pour lui. Et on l'a vu dans les soirs précédents, comment Dieu avait un projet, mais l'homme, en se laissant aller à une sorte d'égoïsme ou d'orgueil, il a détourné le plan de Dieu. La Bible nous rappelle qu'un jour, Dieu a demandé à quelque chose d'assez singulier à un prophète, le prophète Osée. Le texte dit dans ce petit livre, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Alors, on pourrait dire cette parabole vivante était assez interpellante. C'est la seule fois, j'allais dire c'est la première, mais aussi la dernière fois, où on va dire donc c'est la seule fois où Dieu a demandé cela à un prophète. Va, épouse une prostituée et des enfants de prostitution. On va dire que ce n'est pas vraiment le projet d'une vie. Éthiquement, ça ne colle pas vraiment avec la vocation prophétique. Ce n'est pas dans les habitudes. Mais Dieu a voulu étonner et son prophète et le pays d'Israël parce que Dieu avait une relation particulière avec ce pays. Va, épouse une prostituée. Dieu n'a pas dit à son prophète d'aller dans la prostitution, mais Dieu dit symboliquement, mais réellement aussi, on va dire, épouse une prostituée, parce que ce pays, qui est censé symboliquement être comme ma partenaire, moi l'époux, ce pays, cette nation l'épouse, ben, elle est devenue infidèle. Elle est tombée dans ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. Pour résumer, qu'est-ce que c'est que la prostitution spirituelle ? C'est l'abandon de Dieu. Abandon de Dieu comme le partenaire pérenne, permanent, constant. C'est chercher d'autres partenaires. C'est une forme d'infidélité. Mais la prostitution est encore plus forte, on va dire plus dégradante que l'infidélité. Parce que cet abandon de Dieu signifie aussi abandon de la parole de Dieu, abandon des prophéties. C'est un peu le rejet des prophètes. Parce que les prophètes étaient là pour rappeler cette parole de Dieu. Et quand on parle de prostitution spirituelle dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on parle aussi de l'adoration des idoles. Parfois, on peut abandonner Dieu et arrêter de croire en lui et ne pas croire en autre chose. Mais là, c'est l'abandon de Dieu pour se donner d'autres formes d'adoration, des idoles. Des idoles. Quand vous lisez, nous n'avons pas le temps de lire tous ces textes parce qu'ils sont nombreux, mais vous lisez les grands prophètes comme Ésaïe, comme Jérémie. Jérémie, déjà dans les tout premiers chapitres, il y a cette lamentation, on pourrait dire, en tout cas cette interpellation, pour ne pas dire cette invective, pour dire comment le peuple a abandonné l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de la création, pour se fabriquer, se donner des idoles. Et dans Ésaïe, le grand prophète aussi, chapitre 40 et suivant, ben, il y a toute une sorte de plaidoirie où Dieu veut dire au peuple, qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'ici, j'ai été votre Dieu ? Comment avez-vous pu tomber, on va dire, même si ça paraît un pléonasme, comment avez-vous pu tomber aussi bas pour aller vous fabriquer des dieux qui ont des oreilles, certes, mais qui n'entendent pas, qui ont des yeux bien dessinés, bien sculptés, mais qui ne voient pas, qui ont des bras, parfois même plusieurs, mais qui n'arrivent pas à bouger le petit doigt pour vous. Ils ne peuvent même pas marcher, c'est vous qui devez les porter. Dieu dit, mais pourquoi vous êtes allé aussi loin que cela ? Et parce que dans le pays, il y avait des hôtels, des lieux de culte un peu partout, ben Dieu dit que ce pays s'est prostitué totalement. Cette adoration des idoles a amené l'adoration de la création, des créatures, au lieu d'adorer le Créateur. Dans le livre de Jérémie, si vous lisez le chapitre 6, par exemple, on parle encore des pères qui ramènent la farine, des enfants qui versent de l'eau et de la mer qui pétrit des gâteaux pour les offrir à la lune, la déesse lune, pour imiter les autres nations autour d'Israël. Dieu dit que la prostitution spirituelle, c'est le mélange des genres. Ce qu'on appelle, avec un mot très technique, le syncrétisme, c'est-à-dire on fait une jolie mixture de toutes les religions, de toutes les cultures, et on se dit c'est possible de faire cohabiter tout cela. Dans le contexte chrétien, on appelle cela l'écuménisme. C'est-à-dire toutes les religions chrétiennes veulent se mettre sous un seul parapluie, une seule autorité, et se dire voilà, nous avons atteint l'unité. Pourquoi un tel vocabulaire ? Parce que la prostitution désigne une forme d'échange commercial, on pourrait dire, ponctuel. C'est impulsif ou c'est pulsionnel. Et souvent, quand on regarde, les études montrent bien que la prostitution se fait dans un milieu assez mixte, composé d'individus issus souvent de milieux modestes, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des gens qui viennent aussi des milieux assez aisés pour fréquenter ou faire vivre, faire tourner cette grande affaire, cette grande entreprise qu'on appelle la prostitution et qui est souvent considérée par certains comme le plus vieux métier du monde. Des gens gagnent leur vie, de l'argent facile, mais peut-être des gens perdent aussi leur âme à travers cela, aussi bien dans la pratique que dans la recherche de ces services. N'importe quel sociologue, croyant ou non-croyant, vous dira que la prostitution est une véritable forme d'esclavage et que la personne qui s'y livre vend à prix d'argent le plaisir qu'un autre peut retirer de son corps. Échange d'un billet, de plusieurs billets, contre un plaisir ponctuel. Il n'y a pas de vie en commun, mais c'est juste cette profanation du corps, on pourrait dire. Cette marchandisation du corps et ce corps qui est censé appartenir à Dieu. Nous le verrons à la fin de notre réflexion ce soir. La prostitution, on la voit dans beaucoup de rues, dans toutes les rues, dans les grandes villes comme dans les petites villes. On la voit sur les bords des routes, même dans les îles ensoleillées, pas trop loin du bruit des vagues, sur des routes qui seraient presque des routes de campagne, sur les anciennes routes qui ne sont plus des voies rapides, des installations sommaires, des campements. Quand vous passez et que vous allez parfois même prendre un avion, si la voie rapide est bloquée, vous passez par les routes secondaires, vous pouvez voir toutes ces personnes qui font ce commerce de leur corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu disait que le peuple s'est prostitué spirituellement, comme si le peuple était tombé dans cette pratique qui disait « nous n'avons plus de considération, nous avons perdu nos repères, nous n'avons plus de relation unique avec Dieu. Ne parlez pas de fidélité, parlez plutôt de ce qui nous fait plaisir. » Alors, dans ce contexte, peut-être la question se pose. Comme Dieu avait dit à son prophète, « Va, épouse une prostituée et des enfants de prostitution. Voilà l'état dans lequel se trouve mon pays. Le pays que j'ai posé là comme, pour donner comme cadeau aux descendants d'Abraham. Ce pays qui est cher à mon cœur, parce que cette nation est chère à mon cœur, parce que j'ai prévu que le Messie allait venir par cette nation. Et j'ai prévu que toutes les nations de la terre seront bénies par la postérité d'Abraham qui passera par cette nation. » Et quand Dieu voyait cet éloignement du peuple d'Israël, de l'alliance qu'il avait contractée avec lui sur le mont Sinaï, avec Moïse, Dieu dit, ben, ce pays s'est prostitué. Le mot est très fort. Le mot est très fort. Il est même insultant. Et on a l'impression que c'est presque un gros mot, un mot grossier dans la bouche de Dieu. On va dire, mais Dieu ne dit jamais de gros mots. Ça vous choquerait d'entendre un gros mot de la part de Dieu. Mais voilà, le mot prostitué. Parce que l'état spirituel était tellement dégradé. Allez, on va dire, Dieu était en colère. Dieu était en colère. Parfois, dans la colère, les gens disent des mots vulgaires, grossiers. Il y a même des couples, quand ils se disputent, il y a des vocabulaires insoupçonnés qui sortent comme un réflexe, soit parce qu'ils l'ont entendu dire ailleurs, soit parce qu'ils l'ont appris par cœur en disant un jour ou l'autre, j'aurai l'occasion de placer ces mots. C'est comme des phrases, des citations que certains apprennent par cœur en disant un jour, pour faire savant, je vais essayer de placer cette citation au bon moment dans une belle conversation, juste pour faire le savant ou faire le connaisseur. Ben, c'est l'occasion qui manque parfois. Mais dans la colère ou dans la souffrance, il y a du vocabulaire qui peut paraître injurieux, insultant, dégradant qui sort. Quand Dieu traite son peuple de prostituée, ben on peut dire ce vocabulaire, il est infériorisant, dégradant. Dieu est en train de vilipender ce peuple. Ça veut dire qu'il y a une souffrance. Est-ce que Dieu peut souffrir? Émotionnellement, en tout cas dans le langage humain, on a l'impression que oui. Et maintenant, si Dieu regardait la terre, alors on va me dire, mais pourquoi toute la terre? Est-ce que ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui appartient à Dieu? Retournez avec moi dans la Bible, dans Exode chapitre 19, verset 5, et nous verrons si seulement le peuple d'Israël appartient à Dieu. Et parce qu'il y a beaucoup de philosophes, de penseurs, des gens, des érudits qui pensent que la Bible ne concerne que le peuple d'Israël. Et toutes les autres nations, tous les autres peuples n'ont aucun lien avec la Bible. Mais regardez avec moi dans Exode chapitre 19, versets 5 et 6. Je lis maintenant, verset 5. « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Toute la terre est à moi. « Vous serez, verset 6, pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » C'est-à-dire, vous exercerez une sorte de médiation pour moi, parce que j'aimerais que toute la terre soit touchée par ma parole. Quel est l'état de notre société contemporaine aujourd'hui? Justement, j'ai envie de dire, permettez-moi de le dire comme cela, en matière de tenue éthique, morale. Face à ce mot, la prostitution, ce que Jésus avait prévu, déjà, prédit. Regardez dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39, ce que Jésus dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors il n'y a rien de mal à manger ou à boire ou à se marier. Ou à marier les enfants. Mais Jésus dit, ce genre d'engagement peut amener à une déconnexion de la parole de Dieu et à ne se douter de rien. Parce que Dieu veut dire quelque chose à toute la terre. Ce que Jésus aimerait dire aux grands de ce monde, ben il veut aussi le dire à tous les citoyens. Parce que le verset central, le verset qui résume le cœur même de la Bible, dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire toute l'humanité, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Chaque individu est concerné. Donc, quand Jésus dit, attention, dans les temps de la fin, et nous avons vu dans une conférence précédente, en parlant des nations qui sont issues de l'Empire romain, dans le temps de ces rois, de ces royaumes, de ces nations dites européennes, de ces nations héritières de l'Empire romain, dans le temps de ces rois, c'est-à-dire pendant l'existence même de l'Union européenne, Jésus va revenir. Si nous sommes dans cette ère, dans cette période où l'Europe existe, ben, mesdames et messieurs, vous devez comprendre que Jésus va revenir et que nous sommes dans ce temps que Jésus décrit. D'où la nécessité pour toute l'humanité d'entendre ce que Jésus a à dire. Mais que recherche le citoyen aujourd'hui? Si Jésus dit que dans les derniers temps, quand le Fils de l'homme va revenir, les gens seront comme au temps de Noé, qu'est-ce que cela signifie? Quand je regarde la planète, je vois que la société s'organise autour de trois lettres ou trois lettres initiales de trois verbes. Vous demandez ce que cela signifie. NVM, ce n'est pas le nom d'un nouveau groupe, ce n'est pas une nouvelle marque de vêtements, mais simplement naître, vivre et mourir. La plupart des gens dans la société organisent leur vie autour de ces trois verbes. Naître, ça ne dépend pas de nous. Mourir, logiquement, ça ne dépend pas de nous, sauf pour des cas de suicide, malheureusement. Mais vivre, on pourrait mettre entre le V et le M un S, survivre. Naître, vivre et mourir. Toute la vie se résume à ça. Alors, une fois qu'un enfant est né, la famille l'entoure, lui donne tous les soins, l'élève, le nourrit, l'envoie à l'école, l'accompagne sur les chemins de formation. Ensuite, quand cet enfant a créé sa propre cellule conjugale, familiale, etc., ben l'enfant continue la même chose. Trouve un travail et après arrive à la retraite. Et à la retraite, en général, tout en vivant bien, en mangeant bien, en choisissant ce qu'on mange, ce qu'on boit, en allant en vacances, en se déplaçant, ben on se dit un jour ou l'autre, on va mourir. Et on vit tranquillement ou même joyeusement en attendant la mort. Le citoyen ne se doute de rien, comme disait Jésus. Et quand vous regardez la société autour de vous, on dit toujours, on va accompagner un tel dans sa dernière demeure. Sa dernière demeure, c'est une petite boîte, pas très long, pas très large, et puis dans un terrain où tout est silencieux, où il n'y a aucun problème d'impôts, de gilets jaunes, de circulation, de coupures d'électricité, de bugs Internet. Non, il n'y a aucun souci dans ce quartier-là. Mais souvent, les gens pensent que la vie s'arrête là. Ils ne se doutent de rien. Ou le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il cherche? Plus, plus, plus. Encore plus d'argent, encore plus de moyens, encore plus de possibilités de se faire plaisir. Ou moins. Quand ce n'est pas plus, c'est moins. Moins d'impôts, moins d'autorité, moins de devoirs à l'école, moins d'examens, moins de panneaux qui demandent de limiter la vitesse. Beaucoup, beaucoup de choses qui nous gênent, ben, si on pouvait les enlever. La mentalité de notre société contemporaine, quelle est-elle? C'est la mentalité du tout, tout de suite. Quand vous appuyez sur une télécommande, vous vous attendez à ce que la télécommande commande quelque chose et que le résultat soit immédiat. Et quand ça ne marche pas, vous avez l'impression que la pile, elle est usée, il faut la changer. Et deux personnes sur trois vont enlever la petite trappe pour essayer de remettre les piles en ordre. Parfois, il y en a qui tapotent un petit peu pour que cela marche parce qu'on est pressé. Il n'est pas logique que la télécommande soit plus lente que notre pression du doigt. Quand vous ouvrez le robinet, il est logique que l'eau coule. Après avoir pris certaines habitudes, il est impensable de devoir se lever, aller à une fontaine, à un puits pour chercher de l'eau. Tout de suite, immédiatement, à portée de main. le confort, le plaisir, le divertissement, les loisirs. Regardez un peu nos magasins, nos grandes surfaces. On dit qu'il y a la crise ? Allez en fin de journée dans certains centres commerciaux. Allez à la fin de la semaine dans les grandes surfaces. Regardez les rayons. D'un côté, nous ne sommes pas cohérents en tant que citoyens. Le matin, les mêmes citoyens se plaignent et l'après-midi, ils ont des chariots chargés pour passer à la caisse du supermarché. Et en fin de semaine, vous avez l'impression qu'on prépare une guerre parce qu'il n'y a pas grand-chose qui reste sur les rayons. On dit la crise, le prix du carburant n'arrête pas de grimper, mais regardez le nombre de compagnies aériennes qui se développent. Le nombre d'avions, d'appareils qui sont commandés. Et pourtant, on parle de la crise. On fait même des avions avec 2 étages. On n'arrête pas. Même si on parle de compagnies low cost, mais low cost qui se vendent bien, et ces compagnies ne désemplissent pas. C'est vrai que parfois, sous prétexte qu'il y a eu du retard ou un souci technique, ils fusionnent 2 vols pour faire voler un seul appareil au lieu de faire voler 2 appareils à moitié vide. Ils ont la technique parce que tout le monde veut gagner. Tout de suite, le profit. Nous sommes dans une société hyper consommatrice et hyper individualiste. Souvenons-nous des 3 dieux qui ont été évoqués pendant cette semaine et qui gouvernent le monde, qui vit sans Dieu, sans le vrai Dieu. L'argent, le sexe et le pouvoir. Et Jacques, l'apôtre, arrive avec cette idée. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et quand il dit adultère ici, il le dit sur 2 plans. Le niveau peut-être physique, mais aussi le niveau spirituel, pour rejoindre un peu cette idée de l'Ancien Testament de l'infidélité spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire, cet amour du monde ? Un de ses collègues, l'apôtre Jean, va dire « Car tout ce qui est du monde, dans 1 Jean chapitre 2, versets 16 et 17, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce qui est dans le monde, c'est ça, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Le premier péché qui est entré dans le monde est passé par la convoitise. Et peut-être le dernier péché que vous auriez pu commettre, même si cela remonte à 7 mois et 2 semaines ou 2 jours, peut-être vérifiez bien. Vous verrez que la plupart des péchés passent par la convoitise. Dieu dit, Jésus en tout cas veut nous alerter ce soir. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, et le monde tourne avec cela. Si nous restons sur les modèles relationnels que nous avons dans notre société par rapport à cette notion d'infidélité ou de prostitution spirituelle. Regardez, les modèles que nous avons aujourd'hui, le modèle le plus classique, c'est le modèle hétérosexuel et monogame. Le modèle qui est venu s'ajouter de manière officielle, légale, voté par la plupart des parlements du monde, même en Inde, même dans les pays les plus catholiques, c'est le modèle homosexuel, le mariage pour tous. Aujourd'hui, nous avons aussi ce qu'on appelle le polyamour. Les sociologues parlent de cela en disant « Nous ne pratiquons pas la polygamie, c'est-à-dire nous n'utilisons pas ce mot officiellement, mais nous pratiquons le polyamour. » C'est-à-dire il y a des gens qui peuvent aimer plusieurs personnes en même temps et qui peuvent vivre avec plusieurs personnes en même temps. Et c'est quelque chose d'assez marquant. Un exemple, un homme, appelons-le Robert, il n'y a pas de Robert ici, appelons-le Robert. Ben, le lundi, Robert vit avec, on va dire Bathsheba, il n'y a pas de Bathsheba ici, non. Et le mardi, Robert vit avec Agrippine, il n'y a pas d'Agrippine ici, non. Et le mercredi, Robert vit avec Madame Olson, on va le dire comme cela. Et le jeudi, Robert vit avec une personne dont il a oublié le nom, et moi aussi. Et puis le vendredi, Robert revient vivre avec sa femme parce qu'il passe le week-end à la maison. Mais il ne change jamais de jour. Il ne se trompe pas dans les jours. Il ne garde pas sa voiture devant la maison où il n'est pas attendu. Robert est fidèle à ses 4 relations. et même 5. Un peu comme la femme samaritaine dans l'histoire de Jean, chapitre 4. On peut être fidèle même dans le désordre. Le polyamour. Parce qu'on pense qu'on a un cœur grand comme ça, tellement grand qu'on peut héberger plusieurs relations. En d'autres contextes, cela s'appelle la polygamie. Mais pour faire politiquement correct, socialement correct, on appelle ça le polyamour. Un joli mot inventé par les sociologues et pratiqué par ceux qui sont polyromantiques, on va dire. Et puis, il y a le modèle qu'on a le plus classique pratiqué maintenant, le concubinage, c'est-à-dire l'amour libre. On n'a pas d'engagement, on ne signe rien du tout, on vit bien jusqu'à ce que cela tourne mal. Un exemple célèbre que nous avions, c'était Ségolène et François. Un couple pas très célèbre, mais dont on a parlé dans les magazines. Parce que quand Ségolène a découvert que François voyait trop souvent une journaliste, ben Ségolène a demandé officiellement, en pleine campagne électorale, à François de quitter la demeure. On avait appelé ça conjugal même à l'époque. Mais ça a fait sourire. Et puis François, parce qu'il a des habitudes, ben il vivait encore un autre amour caché. Mais pour se protéger, la seule manière qu'il a trouvé pour se protéger, c'était de porter un casque de scooter, mais là aussi, les journalistes l'ont découvert. Le polyamour est pratiqué jusqu'au sommet de l'État, on va dire. Alors, cela fait sourire, mais cela peut paraître normal. On n'est pas destitué en tant que président de la République pour cela. Dans les pays anglo-saxons, oui. Quand Bill Clinton s'était permis quelques petites incartades avec une secrétaire ou une stagiaire, ben, il y avait un procureur indépendant qui a essayé d'apporter ce qu'on appelle en anglais « l'impeachment », c'est-à-dire la destitution, l'empêchement de poursuivre ce rôle d'homme le plus puissant du monde. Mais dans notre société, nous avons aussi ce qu'on appelle en bon français les « sex friends ». Des amis peuvent vous dépanner sexuellement comme on vous dépanne pour un déménagement. Parce que c'est une mentalité de consommation. Je n'ai pas besoin de te dire « je t'aime », mais je peux t'offrir beaucoup de choses. Parce qu'on le fait entre amis. Et c'est gratuit. Cette prostitution sans TVA existe bel et bien, mesdames et messieurs. On n'a pas besoin de séduire. On demande juste « est-ce que tu veux ?» Vous avez maintenant des réseaux avec la géolocalisation des deux mondes. Vous arrivez dans une ville. La première fois qu'on m'a offert un iPhone, je ne savais pas que la pomme était vraiment à croquer. Parce que le dessin disait quelque chose. J'entrais dans une ville et je voyais comme ça affiché immédiatement « Natacha, Sandrine, Nathalie sont disponibles dans un rayon de tant de kilomètres. » Je ne les connaissais pas. Parce que je me dis, je n'ai pas de cousine qui s'appelle comme cela. Et après, quand j'ai compris le système, je me dis, voilà, vous n'avez pas besoin de chercher, cela vient à vous. Le péché se vend bien. Dans quel état se trouve le monde aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus veut dire à cette planète que Dieu est venu sauver par Jésus lui-même? Ces rencontres sans lendemain, sans suite, on a vu que tout le monde veut exister. Nous étions à New York en 2008. Les enfants étaient encore petits, donc on pouvait leur boucher les yeux quand cela passait. Il y avait un défilé, un genre de gay pride à New York, mais c'était des groupes chrétiens qui défilaient pour demander la reconnaissance de la relation entre personnes du même sexe. Flaming for Christ, brûlant, comme si c'est à double sens, brûlant, brûlant de désir aussi pour Christ, mais avec des partenaires du même sexe. L'Église méthodiste, on a vu des gens qui criaient Maranatha partout, c'est-à-dire « Viens Seigneur Jésus », mais qui défendaient en même temps ce principe de la relation entre personnes appartenant au même sexe. Dieu nous a fait des queens, des femmes, des reines, mais vous connaissez aussi les travestis et autres, parce que tout cela peut trouver une place, et c'était dans une église en plein cœur de New York. New York, l'Amérique, qui reçoit et qui propose beaucoup de choses. Il y avait même une communauté de juifs messianiques. Et puis on est arrivé en France quand il y a le projet de mariage pour tous avec François Hollande, et dans les chrétiens qui ont défendu le plus le modèle classique, c'était plutôt les catholiques. Il faut quand même leur rendre ça, hommage pour ça. Mais chez les protestants, c'était un peu mitigé. Mais malgré toutes les prises de position, les manifestations contre le projet de mariage pour tous, tiens, moi aussi, j'ai participé à cela pour dire non, nous reconnaissons seulement le mariage hétérosexuel et monogame selon la Bible. Malgré nos efforts, ben, la loi a été votée et Robert a pu épouser John en bonne et due forme devant M. le maire. Parfois, nous nous disons, le monde va mal, mais le monde va comme il le décide, selon la convoitise de la chair, selon la convoitise des yeux et selon l'orgueil de la vie. Qu'est-ce que Jésus veut dire à l'humanité? Même en Inde, on a abrogé les lois qui dataient de l'Empire britannique parce que tout cela paraît vieillot. Aujourd'hui, plutôt, il y a un certain temps, on pensait que dans les pays asiatiques, on tiendrait encore, les digues tiendraient encore. Mais non, pratiquement toute la planète est en train de prendre la même direction et ces mêmes comportements. Et dans ce désordre moral, éthique, dans ce désordre sexuel, les comportements changent encore. Aujourd'hui, quand on parle de l'adultère, ce mot n'est même plus utilisé. À partir du moment où, je le lisais encore aujourd'hui, dans les journaux, si on parle de relations entre adultes consentants, cela suffit. Cela ne devrait gêner personne. Mais au-delà de l'adultère, le viol est aussi un désordre de comportement. Parce que cela montre le respect, le manque de respect total envers la personne qui est agressée ainsi. L'inceste aussi, cela blesse. Ce n'est pas normal. Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de détours. Avec l'inceste, sa voisine, c'est la pédophilie. Alors, il ne faut pas juste penser ou attendre qu'il y ait des faits divers qui viennent défrayer la chronique, parce qu'on va parler des prêtres pédophiles, des instituteurs pédophiles, des animateurs dans les centres aérés ou dans les colonies de vacances pédophiles, qu'on va dire « Ah là là, c'est un scandale !» Parfois, ce n'est pas très loin de chez vous, dans votre cercle familial. Tout cela montre comment l'homme a été troublé et jusqu'à quel point le péché a abîmé l'humanité. Dieu a créé l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Les hommes et les femmes vont s'amuser, ne se doutant de rien, et puis le Fils de l'homme va venir. Je veux vous dire ce soir, au nom de Jésus, soyez attentifs à la parole. En plus de la pédophilie, encore une chose qui dégrade, qui avilit l'humain, la pornographie, dont l'intention est totalement mauvaise. C'est un fléau social. Et aujourd'hui, quand on regarde la réalité derrière tous les écrans, la pornographie est partout. Publicité, mode, film, musique, magazine, télévision, jeux vidéo, site internet, partout. Même dans le partage de photos. Et il y a des jeunes qui pensent que c'est amusant parce que ça fait sourire, ça fait rire. Ben on ne fait que transférer, partager. Il y a déjà une flèche préparée pour vous, partager. Et on partage tout ce qui bouge, tout ce qui fait sourire, tout ce qui est drôle n'est pas utile. Et quand on demande pourquoi vous avez transféré cela, ben c'est cool. Ou c'est marrant. Mais derrière, on a perdu de vue la dimension morale de certains gestes. Jamais, jamais le monde n'avait atteint un tel niveau de dégradation morale. Je ne me pose pas comme un moraliste ici ou un moralisateur. Je rappelle juste ce que Jésus a dit. Juste avant l'avènement du Fils de l'homme, le monde sera dans un tel état que les gens ne vont se douter de rien. C'est pour cela que les apôtres vont dire que Jésus va venir comme un voleur. Eux aussi l'ont dit. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où personne n'y pensera. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il le dit pour nous faire peur ou pour nous dire « Vivez et ne vous doutez de rien » ou bien il a voulu dire « Vivez, mais soyez en état d'alerte, le Fils de l'homme va venir. » Si vous voulez être dans le royaume de Dieu, réfléchissez. Parce que dans ce monde-là, par rapport à la pornographie, presque les statistiques sont affolantes. Mais ce qui est encore plus affolant, c'est de savoir qu'il y a un bénéfice de 75 milliards d'euros chaque année grâce à la pornographie, pour dire jusqu'où le péché ramène des profits. Quelle est la mentalité des citoyens aujourd'hui? Vivre le rêve d'une vie ou rêver d'une vie de rêve? Quelle est notre ambition? Vivre en forçant les autres à la servilité? En dégradant, en exploitant les autres? Dieu a créé l'homme droit. Il a fait l'homme à son image, mais l'homme a cherché des détours. L'homme a voulu se convertir lui-même en son propre Dieu pour mieux décider, pour mieux se diriger. Mais Dieu avait déjà donné un chemin de vie à l'homme. Est-ce que la vie, c'est se vendre au plus offrant? Il n'y a pas qu'une prostitution corporelle. Peut-être que notre monde est devenu un grand marché où il y a une sorte de prostitution intellectuelle, prostitution mentale. Quand les gens ne réfléchissent plus et laissent les autres décider, réfléchir à leur place, c'est l'acceptation volontaire d'un esclavage. Quand les gens s'enferment dans un raisonnement en disant « Ben, j'ai toujours vécu comme ça, pourquoi tu viens me proposer autre chose ?» C'est aussi avilissant que celui qui ne réfléchit plus et qui se vend au plus offrant. On a vu pendant cette semaine, parmi les marchands de la mort, ces parents qui vendent leurs enfants, qui n'ont même pas 12 ans, juste parce que cela rapporte de l'argent. Alors on va dire, oui, mais il faut bien vivre. Quel sacrifice ? Ce n'est même pas un sacrifice, c'est un meurtre avec préméditation que de vendre son enfant à un réseau de trafiquants pour pouvoir terminer le mois en mangeant correctement. Quel prix ! Quel prix ! Certains, pour prendre l'expression, ont vendu leur âme en vivant dans le mensonge, dans la médisance, dans le faux semblant, en vivant dans des apparences. Alors, parfois, on a voulu vivre selon les feuilletons qu'on a regardés. Il y a des gens qui ont voulu vivre à la Dallas. Pour ceux qui ont connu ces séries, ou à l'autre, le concurrent, Dynasty, vous vous souvenez ? Les plus vieux, les plus jeunes ne regardent pas cela. La plus jeune génération regarde Victor et Nikki en disant, bon, il y a beaucoup de romance là-dedans. Et c'est ça qui nourrit les esprits. C'est ça qui favorise. Et il ne faut pas aller déranger les gens qui regardent leur feuilleton, parce que c'est sacré. Ça m'est arrivé de rendre visite à une mamie, et juste à l'heure où elle regardait son feuilleton, et elle m'a dit, attendez quelques secondes, pasteur, je vais vous parler pendant la pub. J'ai dû attendre la pub, et quand il y a la pub, ah, maintenant j'ai 3 minutes pour vous. Mais j'ai parlé pendant 3 minutes, et puis le film, excusez-moi, on reprend tout à l'heure. Bon, parce que c'était une mamie, j'ai été tolérant. Mais la vie, peut-être pour certains, c'était un peu sur le registre de la petite maison dans la prairie, une vie tranquille, où Charles Ingalls faisait la prière tous les soirs à table pour manger. Un bon père de famille. Et il y avait du respect, un langage respectueux dans la maison. Chaque enfant faisait sa tâche. Tout cela est loin, n'est-ce pas? On a l'impression qu'on rêve. Et parfois, on se dit, est-ce que l'âge d'or de l'humanité est passé? Est-ce qu'on ne peut plus revenir en arrière? Est-ce que c'est fini? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus dit, en faisant appel à Paul, ne vous trompez pas. Il y a un certain comportement qui n'amènera pas dans le royaume des cieux. J'avance. Le même Paul disait, faites donc mourir les membres de votre corps pour ce qui est de la fornication, de l'impureté, des désirs, des envies nuisibles, de la convoitise, l'idolâtrie sous toutes ses formes, cette prostitution spirituelle dont nous parlions. Paul, le même Paul, va dire « Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et convoitise mondaine, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Tite 2, verset 11-12. Et ce même Paul, j'ai l'envie de dire que Jésus veut nous communiquer encore cette parole ce soir. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais si vous êtes prisonnier d'un comportement qui ne reflète pas le projet de Dieu pour vous, demandez de l'énergie au Seigneur. Prenez vos jambes et courez. Quittez cette situation, sortez de là, parce que Dieu veut vous sortir de là pour vous faire entrer dans son royaume. Et La dernière citation biblique que je veux proposer, Paul dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Écoutez bien ceci, mesdames et messieurs, avant de conclure. Notez cette promesse, notez cette parole qui est comme un enseignement qui peut changer une vie. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Je reprends le milieu de cette exhortation. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors quelqu'un peut dire, ah non, je suis maître de ma destinée. Nous avons peut-être un prénom et un nom, mais réellement nous ne sommes pas propriétaires de notre vie. Je ne suis pas propriétaire de ma vie. Et quand je suis en train de dire cela, je ne suis pas en train de vivre dans la négation de moi-même. Je suis juste en train de reconnaître que j'appartiens au Tout-Puissant parce qu'il m'a racheté un grand prix, Jésus-Christ. Quand Jésus est venu ici-bas, qu'il a donné son corps, sa chair, qu'il a laissé couler son sang innocent sur la croix du calvaire, qui est symbolisée ici par une croix, Jésus a voulu dire que l'innocent est venu sauver le coupable. Parce que Dieu veut nous voir dans son royaume. Donc si nous appartenons à Dieu, nous sommes invités à glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Je vous encourage à prêter une attention particulière à cette parole. Laissez le Saint-Esprit toucher votre cœur. Vous qui êtes ici devant moi physiquement comme vous qui êtes derrière votre écran, Jésus a rappelé qu'au moment où il va venir, des millions et des millions d'hommes vont vivre ne se doutant de rien ou faisant la sourde oreille à cette parole qui dit « Venez à moi ». Alors retenez seulement sept mots ce soir. Dieu veut vous voir dans son royaume. Dieu veut vous voir dans son royaume dès aujourd'hui. Êtes-vous prêt à lui donner l'occasion, la chance, j'ai envie de dire, le bonheur de vous rendre visite ce soir. Si votre cœur n'est pas totalement tourné vers Dieu, prenez le temps de réfléchir. Naître, vivre et mourir, toute l'intelligence humaine pourrait-elle se résumer à ces trois verbes? Est-ce que le bon sens ne nous dirait pas, écoute, prête une oreille attentive à la voix de Jésus qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Si vous êtes fatigué de tout ce désordre moral dans le monde, venez à moi et je me donnerai du sens à votre vie. Alors que le Seigneur nous aide et que sa parole trouve un écho positif, favorable, j'ai envie de dire productif dans notre vie, alors je vous donne rendez-vous dans le royaume de Dieu. Merci pour votre attention.